Stéphane Paoli.
Le 7-9 du week-end.
Sandra Freeman.
Le 7-9 du week-end.
Sur France Inter.
Être en contre, et donc depuis hier, le thème du 7-9 du week-end, nous avons reçu hier l'architecte Claude Parent, l'inventeur de la fonction oblique, qui a dû attendre d'ailleurs d'avoir 88 ans pour qu'enfin la cité de l'architecture rende hommage à son immense talent de créateur. Dans le studio depuis ce matin, Claude Angéli, rédacteur en chef du Canard Enchaîné, que l'on ne présente plus, Laurent Beccaria, qui a créé les éditions Les Arènes, parce que les autres éditeurs ne voulaient pas publier l'essai qu'il a été le seul a publié, qui a engagé une enquête de fond sur le nucléaire français, des questions de défense complexes que personne ne voulait aborder. Alain Touraine, probablement le meilleur spécialiste des mouvements sociaux et notamment de ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, et qui nous disait il y a quelques instants que c'est la moitié de la planète désormais qui est en contre et qui conteste les valeurs de, enfin, ce que nous estimions jusqu'ici être les valeurs occidentales. Et puis je parlais aussi en commençant le 7-9 ce matin d'un chercheur dont on avait précédemment dit d'ailleurs qu'il était nobélisable pour ses travaux en biologie. Il s'appelait Jacques Benveniste. À la fin des années 80, il avait présenté une hypothèse de recherche dont vous vous souvenez sûrement. Il parlait de la mémoire de l'eau. Et le grand homme avait vu se dresser contre lui la communauté scientifique. Mais pas toutes. Bonjour Luc Montagnier.
Bonjour.
Merci
Bonjour,
d'être monsieur. Dans le studio du 7-9 du week-end. Faut-il vous présenter? Vous êtes prix Nobel de physiologie et de médecine. Vous êtes le co-découvreur du virus du sida. Vous êtes un chercheur de pointe. Vous avez décidé, j'allais dire là encore, seul contre tous, de quitter la France à un moment donné où on n'a pas jugé utile de vous encourager à poursuivre ici vos recherches. Vous êtes parti aux États-Unis, mais vous êtes à nouveau ici, en tout cas ce matin. Et vous avez poursuivi à votre façon la porte ouverte par Jacques Benveniste.
Bien exactement, je suis basé sur des faits, sur des expériences qui concordaient avec les idées de Jacques Benveniste. Donc pour moi, Jacques Benveniste est un grand chercheur, comme vous avez dit, et c'est vraiment scandaleux la façon dont il a été traité. Il est mort, comme vous savez, en 2004, assez, on peut dire, épuisé par toutes ces luttes. Et je crois qu'un jour et prochain, il sera complètement réhabilité. Et je pense que c'est une affaire aussi importante que l'affaire Galilée.
En quoi, Luc Montagnier, vos travaux, par exemple, sur le virus du sida, ont conduit à vous rapprocher de ces idées? Parce qu'au départ, c'était pas tout acquis, cette question de la mémoire de l'eau qui théorisait.
Non, pas tout à fait, pas exactement. Bien sûr, c'était une idée assez révolutionnaire. C'est toujours une idée révolutionnaire que l'eau est un liquide extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un liquide qui paraît transparent dans un verre d'eau, mais qui, en fait, est fait de grains. Et de grains organisés. Et il y a une autre molécule extraordinaire, c'est l'ADN. L'ADN, la double hélice. Et la double hélice est entourée d'eau. Et ce que j'ai trouvé avec mes collaborateurs, c'est que cet ADN organise l'eau qui est autour, et cette eau garde l'information de l'ADN. Alors ça correspond exactement à ce qu'avait trouvé Jacques Benveniste pour d'autres molécules. Alors c'était la première idée, c'est que l'eau donc peut transmettre des informations biologiques. C'est des idées de Benveniste. Et la deuxième idée, c'est qu'on peut les transmettre à distance par des ondes, parce que cette eau qui est organisée, elle émet des ondes électromagnétiques, comme nous ici, nous correspondons par ondes. Mais la nature aussi le fait depuis très longtemps, sans qu'on le sache.
Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que vous venez de nous dire, Luc Montagnier. Vous dites que c'est aussi important que ce qu'avait engagé Galilée. Vous êtes le professeur Montagnier, vous êtes le co-découvreur du sida. Vous vous êtes battu contre la puissance scientifique américaine, notamment Gallo. Ça a été un combat de haute lutte. Vous en êtes sorti vainqueur. Et c'est vous qui êtes en train de nous dire... Bah Benveniste est un grand homme, on s'est payé sa tête et il finira par l'avoir raison. C'est pas rien. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous vous sentez seul à dire
non,
ça aujourd'hui?
Non, bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Je suis notamment soutenu par des physiciens qui, justement, travaillent sur la structure de l'eau depuis un certain temps. Et dans deux semaines, on va célébrer la mémoire de quelqu'un qui est mort aussi, d'un physicien que connaissait bien Benveniste, qui s'appelait Giulio Preparata, qui est un Italien de Milan. Donc c'est pas... Non, je suis pas tout seul, mais... Je suis quand même assez isolé en biologie parce que là, il faut une révolution mentale, n'est-ce pas? Les biologistes en sont restés encore à Descartes. Descartes, l'animal-machine, les rouages, les engrenages. Or, après Descartes, il y a eu Newton, hein, la gravité, une force qui se transmet à distance. Il y a eu Maxwell, la découverte des ondes électromagnétiques. Donc, tout ceci, les biologistes l'ignorent totalement. Les biologistes actuels, les biologistes moléculaires, imaginent les contacts entre les molécules par des contacts physiques, n'est-ce pas ? Alors que c'est très bien les molécules, ce que disait Benveniste, peuvent correspondre également à distance. Donc c'est une révolution mentale et ça prend du temps. Et c'est dommage parce que il y a aussi des applications médicales. Le sida, par exemple, nous détectons des ondes dans le sang, notamment des patients traités par la trithérapie. Donc des patients, en principe, qui vont mieux, mais qui ne sont pas guéris. Car le virus est toujours là et il émet donc des ondes et de l'ADN qui émet ces ondes.
Pourquoi n'a-t-il pas été entendu ? Est-ce qu'il avait prouvé ses théories ? Ou est-ce que c'est juste une question de mentalité qui sont longues à changer ?
Alors effectivement, c'est de la science difficile. C'est, on peut dire de la science molle au départ, parce que toutes les expériences ne marchent pas.
Ouais.
Nous, on a la chance d'avoir un système où tout marche. Mais ce n'était pas le cas des expériences de Benveniste. Et notamment, quand on prend un tube témoin, un tube en plastique est à côté d'un tube qui émet des ondes, et bien le tube témoin va aussi acquérir ces ondes. Donc des contrôles vont devenir positifs. Donc c'est ce qu'on a reproché longtemps à Benveniste, mais on a été beaucoup plus loin, on l'a traité de tricheur. C'était incroyable. Alors il y a une revue qui a eu un rôle là-dedans, c'est la revue Nature.
Bien sûr,
mais
oui.
Les Français ont boité le pas, et en plus il était vraiment persécuté, il a perdu son laboratoire. Et donc je trouve ça absolument scandaleux, et il faudra qu'il soit vraiment réhabilité, car Jacques Benveniste avait raison.
Vous savez ce que nous disait hier Claude Parent. Claude Parent, il y a 50 ans, à l'époque où l'informatique, les ordinateurs n'existaient pas, a dessiné des choses qui ne peuvent être aujourd'hui dessinées que grâce à la technologie des ordinateurs. Donc il avait 50 ans d'avance. Il a inventé une fonction oblique qui était en avance sur son époque. Benveniste, d'un certain point de vue, peut-être a été à penser trop tôt.
Il était trop en avance, effectivement,
il était trop en avance,
et ça arrive assez souvent en science, bien sûr. Des changements de ce qu'on appelle des paradigmes sont très difficiles à avaler pour les scientifiques.
Hein. Mais Alain Touraine, le sociologue que vous êtes, considère-t-il qu'en effet, le plus difficile toujours, c'est de faire changer les consciences. Et pourtant, elles tournent, comme dirait l'autre.
Oui, ce sont des problèmes que M. Montagnier connaît à un tout autre niveau que moi. Mais c'est vrai que le développement de la science n'est pas linéaire, qu'il y a, comme pour reprendre son expression que j'aime bien d'ailleurs, qu'il y a changement de paradigme. C'est une idée qui a été développée il y a déjà longtemps, en particulier par un type qui s'appelle Kuhn, et avant lui d'ailleurs son professeur qui s'appelait Robert Merton et qui était lui un sociologue, et aussi qu'il y a beaucoup de découvertes qui se font par hasard, ce qu'on appelle la serendipity. Donc ça veut dire que l'esprit scientifique ne consiste pas seulement à empiler des connaissances, c'est pas plus qu'on fait une maison en empilant des briques ou des pierres, il faut qu'il y ait une compréhension de l'ensemble. Autrement dit, la compréhension de l'ensemble est indispensable pour comprendre chacune des parties. Et évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde d'être capable d'avoir une vision globale des problèmes de biologie ou de physique, etc.
Mais à ce sujet, professeur Montagnier, est-ce que les avancées scientifiques sur les nanos permettent justement de voir mieux ces avancées scientifiques que
sur l'eau. Quand on parle des nanos, c'est des nanos artificiels créés par l'homme, et qui peut-être ont des applications effectivement médicales importantes, mais aussi posent des problèmes de toxicité et de danger à long terme. Non, moi je parle de nanoparticules, de nanostructures naturelles, n'est-ce pas ? C'est pas nous qui les faisons, ça existe dans la nature. Et effectivement, ce que je pense, c'est que les germes infectieux, notamment les virus, le virus du sida, certaines bactéries, émettent des millions, des milliards même de ces particules pour influencer davantage l'organisme. Parce qu'un virus, c'est quelque chose de tout petit. Il entre dans un univers. Comment il va prendre le contrôle de cet univers ? Ben, il va émettre justement énormément de particules qui vont avoir une petite quantité d'informations, mais qui vont agir à distance dans l'organisme. Donc c'est un concept que la nature a trouvé, et contre lequel, nous, il faut lutter, bien entendu. Mais je crois qu'il y aura des moyens. Mais il faut vraiment qu'il y ait un effort de recherche considérable, à la fois basique, théorique et aussi pratique, parce qu'il y a des applications énormes à la clé. Et le premier pays qui comprendra ça aura une avance économique aussi sur les autres. Et je regrette que la France ne le prenne pas, ce tournant.
Mais ne faut-il pas, Monsieur Montagnier, pour cela, une très grande ouverture d'esprit qui permettrait la transdisciplinarité ? C'est-à-dire, ouvrir un champ de recherche à plusieurs disciplines simultanément afin d'apporter la meilleure réponse possible. C'est-à-dire une réponse systémique. C'est un mot qu'on emploie souvent ici dans le 7-9 du week-end, mais parce qu'il nous paraît important dans le monde où nous vivons aujourd'hui.
Absolument. Mais le problème, c'est que la masse des connaissances est énorme. C'est pas même en biologie. Une toute petite partie demande des spécialisations. Donc il faut effectivement, des fois, transgresser, passer d'un domaine à l'autre, et c'est pas très bien vu par les collègues à ce moment-là.
Mais parce qu'il y a beaucoup de propriétaires, hein, souvent aussi.
Il y a beaucoup de propriétaires, et puis on pense que quelqu'un qui va dans différents domaines, ben, il est un peu comme un papillon, il comprend rien. C'est faux. Enfin, il faut quand même de temps en temps, effectivement, notamment pour ce problème-là, réunir les physiciens et les biologistes. Et ça n'est pas facile, mais quand même certains physiciens ont tout à fait compris, certains biologistes aussi.
Je voudrais, pardon de le dire, mais c'est presque une sorte de devoir moral que j'ai là. À l'époque où Benveniste poursuivait ses recherches et ses travaux, il écoutait beaucoup France Inter. Et il écoutait notamment le 7-9 dont j'avais la responsabilité. Et très souvent, j'ai eu sur le répondeur téléphonique du bureau du 7-9 des messages de M. Benveniste. Et c'est là que j'ai entendu l'incroyable, la terrible solitude d'un homme qui, dans son milieu, était à ce point remis en cause. Je m'en suis toujours voulu, d'ailleurs, de n'avoir pas invité Benveniste. Et donc, M. Montagnier, merci d'être ici aujourd'hui et de dire ce que vous dites de Jacques Benveniste.
Je regrette aussi que Benveniste était vraiment très maltraité par ses collègues en France.
Mais et ça n'a pas changé? C'est en train de changer ou pas?
Pas tellement. Il y a encore des gens qui pensent que c'était un tricheur. Et je crois que c'est absolument scandaleux et je ferai tout pour réhabiliter sa mémoire et continuer ses travaux.
On ne l'a pas cru, pardonnez-moi d'intervenir, mais moi je fais partie des imbéciles qui ont douté. Je crois que c'est parce qu'on s'est peut-être trompé dans la communication, c'est-à-dire qu'on a dit Benveniste c'est la mémoire de l'eau et on a traduit ça par une image stupide qui était, voilà, vous faites tomber une goutte d'eau à Lyon et quand elle arrive à la mer, elle se souvient de la ville qu'elle a traversée. Alors évidemment, quand on vous présente ça comme ça et qu'on communique là-dessus, on se dit c'est complètement dingue, ce type est fou. Moi, je fais partie de ceux qui ont considéré qu'il était fou.
Mais vous savez ce qu'on dit dans les feuilletons télévisés du soir, dans les enquêtes scientifiques, ce qui est aujourd'hui scientifiquement démontré, toute personne qui rentre dans une pièce modifie la pièce. Et la pièce modifie la personne. À méditer.
Voilà. Ben, il ne faut pas oublier que l'univers, ce n'est pas seulement de la matière.
Claude Angélique, Monsieur Montagnier, Claude Angélique est un spécialiste de ce type de questions. Est d'accord avec ça, non?
Absolument. Et je suis très outré aussi que le professeur Montagnier ait dû s'exiler aux États-Unis.
Ah bah oui, non, mais ça c'est ahurissant.
Donc oui. Et ça, il fallait le dire quand même, parce que nos auditeurs ne sont pas tous au courant. C'était une question d'âge. Et le professeur Montagnier ne pouvait plus exercer en France, c'est ça?
J'ai été obligé de quitter l'Institut Pasteur, effectivement.
Voilà. Eh bien, c'est absolument scandaleux.
Ben qu'est-ce qu'on est content de vous voir ici, monsieur Montagnier?
Dire,
50 ans, la vie devant soi.
C'est que l'univers, c'est pas seulement de la matière, c'est aussi des ondes, il faut pas oublier ça. Et les ondes, ben, on s'en sert, la radio s'en sert tout le temps, oui. Et la nature aussi.
Vous savez ce que c'est aussi, mais c'est dommage qu'il faudrait vous voir, c'est aussi de l'empathie. Et quand vous êtes tous ici dans ce studio, ça change pas mal
tout
de choses.
Tout doit passer par les ondes aussi.